France Inter.
Et c'est l'heure du journal d'Éric Delvaux. Bonsoir Éric.
Bonsoir Thomas et bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il est au cœur des négociations directes que Vladimir Poutine propose d'ouvrir jeudi à Istanbul. Volodymyr Zelensky dit OK, assez pour parler, mais il réclame d'abord le cessez-le-feu validé hier par les Européens. Nous serons en direct en Turquie. L'actualité en France avec la rivalité entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez pour la présidence du parti Les Républicains. Les militants LR départageront les deux candidats le week-end prochain. Nous irons au dernier meeting de campagne cet après-midi de Bruno Retailleau. À la une également, Gérald Darmanin qui enverra demain aux magistrats ses propositions pour en finir avec la surpopulation carcérale. Toujours au chapitre politique, deux textes sur la fin de vie arriveront demain dans l'hémicycle, un an après un faux départ à l'Assemblée nationale. Nous irons dans ce journal à Cannes, qui se prépare à son festival à partir de mardi, et au Mans, où le Français Johann Zarco a remporté cet après-midi en moto le Grand Prix de France. Le temps de demain, lundi, Céline Dacosta, le ciel sera bien perturbé.
Oui, avec des orages sur l'Est et un ciel mitigé pour le reste du pays, avec une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Volodymyr Zelensky est donc prêt à engager des pourparlers directs avec la Russie. Vladimir Poutine a proposé ce matin une première rencontre dès jeudi à Istanbul. D'accord, répond le président ukrainien, mais à condition d'obtenir d'abord un cessez-le-feu, comme l'ont proposé hier les Européens réunis à Kiev avec l'aval des États-Unis. Un cessez-le-feu dès demain, donc pour 30 jours. Recep Tayyip Erdogan se prépare donc à accueillir les pourparlers. Anandlauer, vous êtes en direct d'Ankara, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà un moment qu'Erdogan attendait depuis 3 ans.
Et oui, depuis l'échec au printemps 2022 de négociations directes entre la Russie et l'Ukraine en Turquie, qui avait fait naître des espoirs de paix jamais retrouvés depuis. À l'époque, Kiev et Moscou avaient annoncé s'être entendus sur un texte commun, jamais publié, mais dont on a appris plus tard, via des fuites dans la presse, qu'il aurait pu mettre fin au conflit en proclamant la neutralité de l'Ukraine en échange de garanties de sécurité. Alors cet échec est toujours resté en travers de la gorge de Recep Tayyip Erdogan. Depuis, le chef de l'État turc n'a jamais cessé de proposer ses bons offices, se disant prêt des dizaines de fois à accueillir de nouvelles négociations et soignant ses relations avec Vladimir Poutine autant qu'avec Vladimir Zelensky. Rien d'étonnant donc à ce que Tayyip Erdogan ait réagi presque aussitôt à la proposition de son homologue russe de reprendre les pourparlers d'Istanbul. Le dirigeant turc veut croire à un tournant historique. Il parle d'une opportunité qui doit être saisie. Une opportunité pour l'Ukraine et la Russie, mais aussi donc pour la Turquie, qui rêve depuis 3 ans de jouer un rôle déterminant dans la fin de ce conflit.
Voilà, et ce soir, Donald Trump exhorte l'Ukraine et la Russie à se rencontrer sans délai. C'était Anandlauer en direct d'Ankara. Loin des discussions diplomatiques, l'armée ukrainienne continue de défendre ses positions face aux assauts russes. Environ 2000 étrangers sont engagés aux côtés des Ukrainiens et parmi eux, un Américain du Texas. Il s'appelle Colin. Isabelle Labéry l'a rencontré dans un village de la région de Sloviansk, c'est à l'est de l'Ukraine, où son unité a installé son camp de base. Reportage.
C'est là qu'on reste en attendant de partir pour la zone de combat.
Une fois installé, Colin attendra l'ordre de partir au front. Mais quand ?
On n'en a aucune idée et ça ne sert à rien de demander. L'un des moments les plus dangereux, c'est quand tu es dans le véhicule qui t'amène au bunker. Une fois que tu es dedans, s'il est bien construit, ça va. Donc j'essaye de...
Là, c'est un copain qui passe.
Yes, he's my friend, Major.
Ouais, j'essaye surtout de ne pas perdre mon sang-froid, en somme.
Colin vient du Texas. Il a 41 ans, pas d'enfant. En 2022, il a tout plaqué.
J'avais une petite entreprise de construction, mais je me disais tout le temps, à quoi ça sert ce que je fais? Et maintenant ici, tout fait sens, à 100%.
Ce qui ne fait pas sens, par contre, ce sont les positions de Washington.
Tu veux que je sois franc? Donald Trump n'a pas de couilles, et son équipe agit comme un groupe de personnes qui ne savent pas ce qu'elles font. Ce qui veut dire qu'en vrai, on ne sait pas comment ramener la paix.
Le cadre vient de vendre sa maison au Texas, il s'est mis à l'ukrainien, et s'est même trouvé une fiancée.
Je prévois pas de rentrer.
Et si la guerre s'arrête ? Ça ne changera rien, dit Colin, parce qu'il faudra continuer à défendre l'Ukraine.
Reportage d'Isabelle Labéry, notre envoyée spéciale en Ukraine avec les moyens techniques de Fabien Gosset et Yachar Fazilov. Les relations entre la France et l'Algérie restent totalement gelées. Une mise au point à la mi-journée sur France Inter du ministre français des Affaires étrangères. Relations au plus mal depuis qu'Alger a brutalement expulsé 12 fonctionnaires français à la mi-avril, a déploré Jean-Noël Barrot. C'était aujourd'hui à Rome la première messe dominicale de Léon XIV. Élu il y a 3 jours, il a attiré cet après-midi près de 100 000 personnes sur la place Saint-Pierre. C'était à midi précisément. Et comme souvent pour cette bénédiction hebdomadaire, les messages du pape ont résonné avec l'actualité internationale. Léon XIV a appelé à la paix à Gaza, en Inde et dans cet extrait, vous allez l'entendre, en Ukraine.
Je porte dans mon cœur les souffrances du cher peuple ukrainien. Que l'on fasse le possible pour arriver au plus vite à une paix authentique, juste et durable. Que tous les prisonniers soient libérés et que les enfants puissent retrouver leur famille.
Et depuis l'élection de Léon XIV, c'est tout le Pérou qui s'enorgueillit d'avoir un pape de nationalité péruvienne. Car s'il est natif de Chicago, Robert Francis Prévost est aussi intimement lié à Chiclayo. C'est la 4e ville du Pérou, tout au nord du pays. D'ailleurs, lors de son premier discours au Vatican, jeudi, le nouveau souverain pontife a brièvement salué en espagnol son cher diocèse de Chiclayo. Là où il a été évêque de 2015 à 2023, Léon XIV a d'ailleurs rendu hommage à son peuple fidèle. Sara Mansoura s'est rendue à Chiclayo, au Pérou donc, où vous allez l'entendre, toute la ville célèbre son pape.
À mesure que la foule grossit sur la place de la cathédrale, de gigantesques portraits de Léon XIV fleurissent sur grand écran ou sur des toiles accrochées aux bâtiments municipaux.
Chiclayo devient connu grâce au pape. C'est une fierté.
Fierté qui irradie la ville. On peut déjà trouver des t-shirts à l'effigie du souverain pontife. Un homme simple et accessible, proche de la population, selon Giovanna et Hélène. Tout juste sorti de la messe. Bien sûr, tout le monde saute de joie, fait la fête. On est heureux qu'il ait parlé de nous, de Chiclayo, en espagnol en plus. Il nous porte tellement dans son cœur. C'est un Péruvien. Vive mon pape, il est de Chiclayo. À deux pas, le restaurant où Robert Prévost avait ses habitudes. Carlos, le chef de salle, montre du doigt la table numéro 3.
Il s'asseyait de manière à voir la cathédrale. Il la regardait à chaque fois qu'il mangeait. Il venait 2 à 3 fois par semaine pour son petit déjeuner préféré, le frito chiclayano. Il est fan de la cuisine péruvienne. C'est une personne simple. Il ne donnait pas de pourboire, mais offrait la bénédiction. On a des milliers de personnes qui viennent maintenant, surtout pour goûter le plat du pape.
Son restaurant affiche désormais sur l'ardoise un déjeuner Léon XIV, au même prix, assure-t-il, que la semaine dernière.
Voilà, et on ira goûter donc les fritos chiclayano au Pérou. Sara Mansoura, notre envoyée spéciale au Pérou. 4e round de négociations ce dimanche entre les États-Unis et l'Iran sur le programme nucléaire iranien. Rencontre qualifiée de plus sérieuse que les précédentes par un responsable de Téhéran. Cela dit, toujours selon cette même source, aucun compromis sur l'enrichissement d'uranium n'a encore été trouvé. En Afghanistan, le gouvernement taliban a ajouté aujourd'hui une nouvelle discipline interdite. Plus question de jouer aux échecs. Assimilé jusqu'à nouvel ordre à un jeu d'argent et contraire donc à la loi sur la propagation de la vertu et la prévention du vice. Échec et mat donc pour les joueurs d'échecs en Afghanistan.
France Inter, Éric Delvaux.
Ce sera le week-end prochain. Les 120 000 militants républicains seront invités à départager les 2 candidats à la présidence du parti, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Ils jettent leur dernière force dans une campagne cruciale pour la droite à 2 ans de la présidentielle. Bruno Retailleau a participé cet après-midi à son dernier grand meeting de campagne. Ça s'est passé à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Où vous étiez, Camille Marigaud, bonsoir.
Bonsoir.
Devant près de 2000 personnes, Bruno Retailleau est resté fidèle à ses thèmes de prédilection.
Oui, Bruno Retailleau qui réserve ses coups, non pas à Laurent Wauquiez, mais au principal ennemi de la droite, selon lui.
La gauche mélanchonisée,
Comme pendant le reste de la campagne, Bruno Retailleau ménage donc Laurent Wauquiez, son rival qui lui reproche de faire partie du gouvernement. Bruno Retailleau, lui, assume son parler vrai et son action à Beauvau.
Nous avons déjà un bilan sur la régularisation, sur la naturalisation, sur plein d'autres chiffres, en quelques mois, dans des conditions difficiles, déjà nous avons un bilan.
L'ancien sénateur vendéen rappelle sa proposition d'un référendum sur l'immigration, sa volonté de lutter contre ce qu'il qualifie d'assistanat et de soutenir une France qui travaille. C'est justement ce qui a convaincu Raphaël, 28 ans, adhérent tout neuf, et qui a tranché pour le week-end prochain pendant ce meeting.
Je pense qu'il y a une petite pièce pour Retailleau. Ouais. Je trouve qu'il y a une sincérité qui se dégage de son discours concernant la valeur travail, de prendre le parti des gens qui contribuent et qui savent qu'ils ont quelque chose à rendre à la France.
Bruno Retailleau qui promet aussi de ne pas être un chef de secte, de donner plus de place aux fédérations du parti, de quoi séduire un public déjà conquis dans cette ville reprise par la droite aux dernières législatives partielles de février et à deux pas de Paris, fédération qui concentre un quart des adhérents LR.
Camille Marigot, Bruno Retailleau, qui n'aime pas employer le terme islamophobie à cause, dit-il, de sa connotation idéologique très marqué selon lui du sceau des frères musulmans. Eh bien, en plein débat sur l'acception de ce terme, plusieurs organisations ont appelé aujourd'hui à manifester à Bastille, à Paris, contre l'islamophobie, 17 jours après le meurtre d'Aboubacar Cissé à la mosquée de la Grand Combe dans le Gard. Rassemblement cet après-midi en présence de plusieurs figures des insoumis. Il y a urgence à résoudre la question de la surpopulation carcérale désormais hors de contrôle en France. Une urgence qui s'apparente à une crise sanitaire. Ce sont les mots et la conclusion d'une mission commandée par le ministère de la Justice époque Didier Migaud. Le texte recommande une réduction de peine exceptionnelle générale pour tous les détenus ou presque. Sauf que l'actuel ministre de la Justice ne l'entend pas de cette oreille. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Gérald Darmanin enverra d'ailleurs demain aux magistrats ses propres propositions.
Oui, car les mesures de libération massive, hein, comme ça avait été le cas au temps du Covid, reviendraient à une défaite de la pensée, selon la chancellerie, qui ne veut donc pas en entendre parler. Mais ne peut écarter pour autant le constat d'une urgence carcérale vivement dénoncée dans ce rapport. Alors le ministre brandit en réponse le modèle allemand et ses prisons thématiques comprenaient une réorganisation carcérale. Quand aujourd'hui les détenus sont globalement répartis entre ceux placés en détention provisoire dans les maisons d'arrêt et les autres, selon la durée, dans des établissements pour peine, Gérald Darmanin, lui, réclame une organisation des détenus selon leur dangerosité, classée de A à E, mesure qui, associée à la création de nouvelles places de prison, mais aussi à l'expulsion des détenus étrangers, près d'un quart de la population carcérale, selon le ministère, tout cela devrait permettre de revenir à des taux d'occupation acceptables dans les prisons françaises. Gérald Darmanin, qui tient par ailleurs à rappeler que tout le monde n'a pas sa place en prison, selon lui. Oui, pour les narcotrafiquants, les auteurs de violences aux personnes, ainsi que les condamnés pour des atteintes en lien avec la religion ou la sexualité, mais pas les responsables de dégradation, d'infractions routières ou de délits financiers comme la corruption et les escroqueries.
Et Gérald Darmanin attend une réponse d'ici fin juin avant des annonces prévues pour le 14 juillet. C'était Charlotte Piret, service police-justice de France Inter. Ce sera l'un des grands titres de l'actualité demain, la loi sur la fin de vie. Un an après un faux départ à l'Assemblée nationale, le sujet va donc revenir ce lundi dans l'hémicycle avec cette fois deux textes distincts, l'un sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide à mourir. Et si de nombreuses organisations de médecins, notamment en soins palliatifs, disent leur opposition à une évolution de la loi, d'autres au contraire sont prêts à accompagner les patients qui solliciteraient l'euthanasie ou le suicide assisté. Alice Cachaner.
Ils sont aujourd'hui 120 médecins, infirmiers, à composer le collectif pour un accompagnement soignant solidaire. François Blot, l'un des cofondateurs.
Il y a une volonté de faire penser que les 800 000 soignants seraient tous défavorables à l'aide active à mourir. Ce n'est pas vrai, même si c'est proclamé depuis bientôt 3 ans.
Au médecin qui affirme que donner la mort n'est pas soigner, voici ce que répond ce réanimateur de formation.
La mort, elle est là. Il est évident que je n'ai pas fait ce métier, pour lequel j'ai la vocation depuis tout petit, pour tuer des gens. Et à mon avis, quand on a établi une relation de confiance avec quelqu'un, on ne s'en dédouane pas au dernier moment au motif que ça heurte éventuellement nos convictions. On a un devoir d'accompagnement, oui.
Il se dit prêt à réaliser le geste létal, tout comme Cathy Landu, infirmière.
À partir du moment où ce sera légalisé, Moi, j'ai aucun problème avec ça.
Être dans l'attente que un professionnel de santé vienne vous changer, vienne vous donner à manger, il y a des gens qui veulent pas ça. Il y a des gens qui veulent rester dignes aussi. Et moi, je le conçois tout à fait.
D'après un sondage du Journal international de médecine réalisé en 2024 auprès de ses lecteurs, 63% des professionnels de santé seraient favorables à une évolution de la loi sur la fin de vie.
Un autre thème à l'agenda de la semaine prochaine, le Festival de Cannes 78e édition. La soirée d'ouverture aura lieu mardi. Laurent Lafitte, encore une fois, dans le rôle de maître de cérémonie, on ne s'en plaint pas. Juliette Binoche, en présidente du jury. Une palme d'or réservée à Robert De Niro pour son apport au 7e art. Alexis de Meyer, vous êtes à Cannes. Eh bien, il nous reste à voir la sélection et le jury très cosmopolite.
Avec deux Américains, Ali Berry et Jeremy Strong, des cinéastes indiens, mexicains, coréens et congolais, en l'occurrence Payal Kapadia, Carlos Regadas, Hong Sang-soo et Dieudo Amadi. Une Italienne aussi, l'actrice Alba Rohrwacker. Et enfin, l'autrice franco-marocaine Leila Slimani. Sur le papier, c'est donc un très joli casting qui sera emmené par Madame la Présidente Juliette Binoche. Il faut dire que la Française est une habituée de la croisette. Elle y a d'ailleurs reçu un prix d'interprétation. C'était en 2010 pour Copie conforme de Kiarostami. Son jury va donc avoir la lourde tâche à partir de mercredi de départager les 22 films en compétition pour trouver un successeur à la comédie dramatique Anora de Sean Baker. Julia Ducournau va tenter le doublé après sa palme pour Titane. C'était il y a 4 ans. Les frères Dardenne, eux, peuvent espérer un triplé inédit grâce à leur nouveau drame social intitulé Jeune Mère. Mais les Américains Wes Anderson et Kaylee Reichard, le Français Dominique Moll, l'Iranien Jafar Panahi ou encore l'Ukrainien Sergei Losnitsa sont aussi à surveiller de très près.
Alexis Demeyer, qui fait partie de nos envoyés spéciaux pour la quinzaine de Cannes. Le Grand Prix Moto de France, c'était cet après-midi sur le circuit du Mans. Le jour de gloire est arrivé pour le Français Johan Zarco, vainqueur et de belle manière, sous la pluie, devant 120 000 spectateurs. L'autre pilote français, Fabien Quartararo, parti en pole position, a chuté au 5e tour, Guillaume Batin.
Le Grand Prix de France de MotoGP 2025 est entré dans l'histoire, histoire collective, avec un record mondial d'affluence, 312 000 spectateurs tout au long du week-end, et une ambiance digne des Jeux Olympiques, lorsque Johann Zarco a clamé à chaque tour franchi enfin la ligne d'arrivée.
C'est magique, j'aurais jamais cru que ça arrive comme ça. Saluer le public sur le dernier tour, c'est juste exceptionnel et j'ai l'impression que ça se fait qu'une fois dans une vie, c'est aujourd'hui.
Congratulations. Histoire familiale aussi, car c'est la première fois en 17 ans de carrière que Johann Zarco invite ses parents à venir le voir pendant une course.
Son entourage nous a dit, il a besoin de vous, on ne voulait pas venir. Il a dit, venez, venez, on est venu.
Il a besoin de sa maman.
Merci, merci la vie.
Ben, grosse, grosse émotion. Je pense qu'ils ont pris cette bonne décharge aussi du public. Fallait qu'ils voient ça et ils l'ont vu de la meilleure des manières possibles. Maintenant, ils peuvent retourner tranquillement à la maison.
Johann Zarco entre dans l'histoire aussi parce qu'il est le premier pilote français à remporter le Grand Prix de France Moto depuis 1954, 71 ans après un certain Pierre Monneret.
Guillaume Batin sur le circuit du Mans. Dans l'univers des jeux vidéo, on va terminer le journal avec ça. C'est un peu le miracle français. Clair-obscur, Expédition 33, un jeu qui cartonne depuis sa sortie le 24 avril. Et bien dans ce jeu, il y a un grand engouement également pour la bande originale. Une musique composée par Lorient Estar, une musique très demandée donc sur les plateformes de streaming, Olivier Bénis.
À peine le jeu lancé, on sentait déjà que la bande originale de Clair Obscur Expédition 33 avait quelque chose de spécial. L'univers du jeu s'inspire de la belle époque française et le jeune compositeur Lorient Estar a suivi le mouvement pour sa première bande originale, un projet titanesque, 154 pistes, 8 heures, 9 minutes et évidemment 33 secondes. Depuis, les gamers partagent leur obsession pour certains des morceaux sur YouTube.
Faut qu'on parle. La musique ne sort pas de ma tête. Genre j'essaie de me focus quand tout d'un coup. Dam dim dam da la dim dim dam da la dim dam di dam. Tout le temps. Dim dim da da la dim dim
da da la dim. Lumière, la piste la plus populaire de l'album, comptabilise plus de 3 millions d'écoutes sur Spotify, 2 millions sur YouTube, plus de 18 millions d'écoutes pour l'ensemble des morceaux. Tout ça sans concession sur la créativité, comme le jeu dont elle est issue. La musique de Clair Obscur fait des choix très tranchés, passant de l'accordéon à des thèmes épiques façon cinéma, en passant par des expérimentations plus électro. Bref, une vraie réussite qui a de quoi rester longtemps dans l'oreille des joueurs et des non-joueurs.
Et voilà, j'ai dans la tête ce clair-obscur musique du jeu vidéo. Emmanuel Macron d'ailleurs a félicité cette équipe de Montpellierin de faire ainsi rayonner dans le monde la créativité à la française. Le temps.
La météo avec le Boom Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Eh bien demain, on va retrouver les orages sur l'est du pays.
Oui, puisque la perturbation pluvio-orageuse de ce week-end va encore traîner un petit peu en matinée, de la région PACA, Rhône-Alpes, vers l'Île-de-France et la Picardie. Elle va stagner d'ailleurs sur ces secteurs l'après-midi, avec des averses qui deviendront localement orageuses. Sur l'extrême nord, près des frontières, le ciel devrait rester au sec. On aura même des éclaircies. Et puis sur l'ouest, là où la perturbation est déjà passée, on aura un ciel de traîne. Vous savez, cette alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses. Des averses qui pourraient quand même encore aller jusqu'à l'orage, notamment sur le massif central. On aura un bon vent d'ouest sur toute la façade atlantique avec des rafales jusqu'à 70 km à l'heure et des averses sur les Pyrénées et le relief corse.
Et pour les températures?
Alors elles baissent un petit peu le matin avec une moyenne qui ira de 7 à 11 degrés, 11 à 15 dans le sud-est. Et elles baisseront également l'après-midi puisque les maximales iront de 16 à 23 degrés du nord au sud. 24 degrés à Paris aujourd'hui, il en fera 19 demain.
Céline Dacosta.